ce que j'ai pu comprendre par tous ces mois de pays long, c'est une certaine révolte
RFI
qui dérive d'une frustration.
Grand reportage.
Assez grande et étouffée depuis bien longtemps.
Grand reportage vous emmène aujourd'hui en Haïti où depuis plus d'un an, l'opposition réclame la démission du président accusé de corruption. Entre septembre et décembre dernier, ce bras de fer politique a débouché sur un mouvement de contestation sans précédent, pays loc, pays bloqué, en créole. Pour accroître la pression sur le chef de l'État, l'opposition a appelé la population à ne pas sortir. La plupart des écoles sont restées fermées. Pendant 3 mois, barricades et violences ont empêché la libre circulation des personnes et des biens à travers l'ensemble du pays, coupant ainsi les provinces de la capitale. À la faveur d'une accalmie, nos envoyés spéciaux ont pu quitter Port-au-Prince en direction des provinces du Nord. Haïti, après l'opération Pays Loc, voyage à travers des provinces en crise. C'est un grand reportage de Stéphanie Schuller, Bertrand Eclair et Marc Kinkoff-Casimir.
Ça a été très difficile. Je n'avais jamais vécu une telle situation dans mon pays, surtout à Mirbalé. De tels troubles, c'était vraiment traumatisant.
Mardi matin, au collège Abel Maïm de Mirbalé, une ville du département du Centre. Ailleurs en Haïti, les cours ont progressivement repris en décembre, après 3 mois d'interruption en raison du mouvement Pays Loc. Mais ici à Mirbalé, au lieu de la contestation, les élèves sont de retour à l'école depuis le 7 janvier seulement.
On ne pouvait pas aller à l'école. Impossible de sortir dans la rue. À n'importe quel moment, on risquait de prendre une balle. On a tous eu peur.
Nous avons eu peur.
Je pensais à mes camarades de classe, à mes amis, mes professeurs, avec lesquels on rigolait bien. L'école m'a beaucoup manqué pendant ces 3 mois-là.
Le peuple réclamait la démission du président, mais il est resté. Aujourd'hui, nous sommes de retour à l'école. Mais nous sommes très en retard avec notre programme. Ça va être un gros problème pour nous.
Selon les estimations de l'UNICEF, 70% des écoles du pays étaient fermées pendant le Pays Loc. Afin de rattraper le temps perdu, le ministre haïtien de l'Éducation a présenté un calendrier scolaire modifié, mais pas évident pour les élèves de retrouver la sérénité nécessaire.
On a parlé du domaine de la philosophie, donc aucun objet propre.
Professeur de philosophie, Hilaire Paulestan-Jacob tente de réinstaurer confiance et motivation.
Par exemple, je viens de m'aider à la salle d'organiser un groupe de WhatsApp qui nous permet de travailler même à distance et même les jours où on ne travaille pas, par exemple, ici.
Comme 8 écoles sur 10 en Haïti, le collège Abel Maïm est un établissement privé. Les professeurs y sont rémunérés par les frais de scolarité. Pendant les 3 mois de fermeture forcée, les enseignants n'ont pas reçu de salaire, comme Peterson Héraclite Pierre Dessin.
Ma femme devrait vivre de mon métier, mes enfants aussi, même les gens qui me côtoient dans la rue. Ils me demandent parfois 5 gouttes. Durant ces jours-là, je n'avais rien à leur donner. Des gens qui restent à la maison, ils ne peuvent pas sortir même pour ravitailler, pour acheter des trucs à manger.
Nous sommes au premier étage de cette école, n'est-ce pas? Et on voit...
On est en face d'un lieu très important pour nous à Mirbalé, c'est la Cour du Bail. C'est là, durant les jours de manifestation, les gens se rassemblaient. Les protagonistes des manifestations étaient les sénateurs. Les sénateurs d'opposition, ils ont même agité le peuple. Mais ce n'est pas vous, sénateur. Je vous ai payé pour que vous me représentez, pour que vous faites des lois. Où sont les lois? Fermer les portes des écoles. C'était ça leur plan, pour pouvoir jeter le gouvernement en place. Alors que Jovenel reste là, le gouvernement est bien bel là, alors que nous autres, nous avons perdu 4 mois.
Dans la rue devant l'école, Pierre Indy attend sa fille. Comme de nombreux Haïtiens, ce parent d'élève souhaite un changement politique, mais ne supporte pas que l'école soit prise en otage.
Il y a certaines personnes qui étaient pour, il y a certaines d'autres qui étaient contre. Et moi-même, la façon dont fonctionne le pays ne me plaît pas du tout. Mais de l'autre côté, la fermeture des écoles, ça handicape l'avenir de l'enfant. Oh, ça, c'est extrêmement grave dans un pays où l'école représente beaucoup de choses pour l'avenir.
Le calme est précaire en ce mois de janvier à Mirbalé. Les violences ont cessé, mais les armes à feu n'ont pas disparu. On peut les voir à peine dissimulées sous des t-shirts et des chemises. Les langues ne se délient pas facilement, et surtout pas devant un micro. Les habitants craignent des représailles.
Ouais !
Il est midi. Pour le déjeuner en famille, Coulange Afeli a osé ressortir sur la terrasse devant sa maison. Mais elle garde un œil inquiet sur la rue. Théâtre, il y a encore quelques jours, de violents affrontements.
Bon, zone a été bloquée, pas de montée, pas de descente.
Tout le voisinage a été bouclé, il n'y avait aucune circulation. Ils avaient barricadé la rue avec des pierres, des branches d'arbres et des pneus. Toutes les activités étaient à l'arrêt, les magasins fermés. Toute la famille a été cloîtrée à la maison, porte fermée. Ça tirait toute la journée et toute la nuit. Tout le monde a souffert.
Tout le monde souffrait.
Mais qui donc étaient les auteurs de ces tirs?
Aujourd'hui en Haïti, la situation de la violence, c'est une situation qui est très compliquée.
Marie-Rosie Kessner-Auguste du Sénat, membre du Réseau national de défense des droits humains.
C'est-à-dire, on peut être par devant des faits et ne pas pouvoir vraiment les analyser. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons d'une part la prolifération des gangs armés. Nous avons le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif qui sont très impliqués dans la contrebande qui permet l'entrée sur le sol haïtien d'armes et de munitions. Lorsqu'on annonce des manifestations, il y a des gens qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour maintenir un climat de terreur, un climat de peur, justement en leur faisant croire que, écoutez, si vous sortez, vous risquez de mourir. De notre côté, il y a aussi des barricades qui ont été tenues par des gens armés. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, nous avons une population qui vit, qui croupit carrément dans la misère. Mais c'est au sein même de cette population qu'il y a des personnes qui sont armées. Certaines d'entre elles peuvent ne pas hésiter d'utiliser leurs armes à feu.
Sans être forcément instrumentalisées par un camp politique ou l'autre.
Nous n'avons pas ces informations, mais nous ne disons pas non plus que ce n'est pas possible.
Si je vous ai bien compris, on ne peut pas dire d'où exactement émanent ces violences, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. C'est ça, et ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'à chaque fois, on avait l'impression que les autorités policières avaient reçu un ordre de non-intervention. Donc maintenant, cette situation chaotique, allons dire, les autorités étatiques, elles y trouvent leur bonheur, parce que justement, elles peuvent dire, bon écoutez, c'est pas nous. Ce sont ceux qui surveillent leurs barricades, qui utilisent les armes à feu. C'est pourquoi nous-mêmes, au niveau du RNDDH, nous disons clairement que la sécurité, elle est de l'apanage des autorités étatiques. C'est aux autorités étatiques de surveiller la circulation des armes dans le pays.
Je suis Joseph Joël-Louis, avocat au barreau de Mirbalais. Habituellement, c'est une ville très, très paisible, où les gens, tout le monde se connaît. Et il n'y a pas vraiment place pour des conflits.
Comment expliquer que dans une ville où tout le monde se connaît, il y a une telle flambée de violence? Parce que c'est vrai que Mirbalais faisait partie des points névralgiques pendant cette contestation. Comment vous expliquez ça?
À cause des routes qui traversent Mirbalais, Mirbalais devient le centre du pays. Après moins de 50 km à la République dominicaine, moins de 50 km à la Tibonite et moins de 50 km à Port-au-Prince.
Si on bloque Mirbalais, on bloque...
Presque quatre départements. Oui, c'est névralgique. Parce que Mirbalais peut bloquer la douane. C'est un point de recette pour le gouvernement. La frontière, Mirbalais bloque aussi le département du centre jusqu'à le nord. Et quand on bloque Mirbalais, on empêche d'écouler les produits venant de la République dominicaine vers l'Artibonite et vers l'ouest.
Comment alors expliquer cette flambée de violence ici?
Quand il y a une situation de souffrance, leur situation de souffrance les pousse à contester. Quand l'opposition fait appel, les manifestants ils viennent. Ils ne viennent pas pour l'opposition, ils viennent exprimer leur ras-le-bol parce qu'ils n'ont pas la possibilité de manger à leur faim.
Les barricades ont disparu. Nous quittons Mirbalais en direction de Hinche, chef-lieu du département du centre. Sur la Nationale 3, qui relie la capitale à la ville de Cap-Haïtien au nord, nous croisons un nombre inhabituel de camions et de bus. Leurs chauffeurs préfèrent cette route, dont certaines parties ne sont pourtant pas goudronnées, à la Nationale 1, en proie aux gangs armés depuis plusieurs mois.
Ici, c'est ce qu'on appelle la partie soins primaires de l'hôpital.
L'hôpital départemental Sainte-Thérèse de Hinche a une capacité de 217 lits et propose tous les services médicaux de base. Le docteur Prince-Pierre Sanson en est le directeur général.
Le LOC a affecté l'hôpital de manière très sérieuse. Le premier inconvénient, c'est l'approvisionnement. Quand il y a le LOC, nous ne pouvons pas envoyer les camions, nous ne pouvons pas chercher du matériel, chercher des médicaments et des équipements.
Qui viennent d'où?
Qui viennent de Port-au-Prince. Parce que nous sommes très dépendants de Port-au-Prince pour notre approvisionnement en intrants et en médicaments. Et un autre inconvénient, notre fonctionnement dépend de l'apport de l'État, de l'apport de nos partenaires et des recettes internes. Quand il y a l'orgue, les recettes éternes vont baisser considérablement. Parce que le flot de gens qui devraient arriver n'arrive pas. Nous avions l'habitude de réaliser près de 20 à 25 interventions chirurgicales par journée opératoire, mais on était descendu jusqu'à 5 pendant cette période. Avec les recettes qui ont diminué, on se disait à un certain moment, est-ce qu'on n'allait pas fermer?
Est-ce que vous avez l'impression, docteur Sanson, aussi qu'il y a eu un problème d'accès à la santé pour les patients pendant cette période-là?
Oui, oui, il y en a eu. Moi, je peux vous donner un exemple. Quand un patient a de la diphtérie et que je n'ai pas de salle d'isolement, je dois transporter l'enfant à Mirbalay. Et Mirbalay, c'était l'un des endroits le plus chaud pendant cette période. Que l'enfant est mort parce que l'ambulance a dû rester derrière une barricade pendant près de 12 heures de temps. Et l'enfant est décédé dans l'ambulance. Pour moi, c'est une crise. J'ai appelé à la radio pour dire que j'allais passer avec un enfant. J'ai parlé à des gens qui sont impliqués. Mais ceux qui étaient sur la barricade n'entendaient aucune prière. Pour moi, c'est un problème grave et c'est déchirant. Je ne veux pas prendre une position politique, mais il faut que l'on comprenne l'importance de la vie des gens et qu'il doit toujours avoir un moyen de faire la protestation, mais sans mettre la vie des enfants et des gens en difficulté, sans mettre un hôpital dans des conditions de non-fonctionnement.
Il y a eu pas mal de violences aussi.
Il y a une augmentation du nombre de plaies par arme blanche, il y a une augmentation du nombre de plaies par balle. C'est un endroit calme où l'on ne recevait pas dans le temps des plaies par balle. C'était des traumas, des gens qui sont tombés du haut d'un arbre, par exemple.
La piste poussiéreuse traverse les champs de la localité de Papaye. Sous les premiers rayons du soleil, Miss Len, Timari et Gislen marchent vite. Elles portent sur leur tête quelques bananes et deux pintades. Dans 2h30, elles arriveront au marché communal de Hinche.
On ne pouvait rien vendre au marché pendant le pays loc. Il y avait des jets de pierres et de bouteilles. On est parti en courant, laissant nos marchandises derrière nous. D'autres les ont pris.
Il y a eu des victimes.
Des blessés.
Des jambes cassées.
D'autres ont reçu des bouteilles à la tête.
Heureusement, on a pu s'enfuir.
On n'a rien eu.
Mais on a tout perdu.
Les enfants pleuraient de faim. Pour les nourrir, on a dû acheter à crédit.
Alors on est en train de marcher en pleine nature, à travers les champs. Et là, en contrebas, nous voyons ce qui ressemble un peu à une sorte de jardin d'Éden. Il y a visiblement de l'eau, du coup c'est très vert. Et c'est le champ d'Iglesias avec lequel nous avons rendez-vous maintenant.
Bonsoir. Nous, pas jeune petit.
Appuyé contre un manguier, Ecclésias Bélizer regarde sa plantation de choux rongée par les chenilles. Pendant le pays loc, impossible d'acheter des pesticides, mais il y a eu plus grave.
À cause des manifestations contre le président, on n'a pas pu nous livrer les semences depuis Port-au-Prince. Ça nous a retardés. Si j'avais reçu les semences à temps, je serais déjà à ma deuxième récolte. Mais là, j'en ai perdu la première. Récolter du piment et le vendre au marché m'aurait permis de vivre. Seulement voilà, tout a été bloqué.
Jean-Claude Monero, ingénieur agronome, membre du MPP, Mouvement Paysan de Papaye.
Ici à Papaye, bon, dans le département 17 même, on produit directement pour la consommation familiale, la consommation locale, et le reste du produit, on vend ça dans les autres marchés nationaux, même au niveau de la capitale.
À Port-au-Prince.
À Port-au-Prince.
Comme vous dites, vous vendez le reste, ça représente combien à peu près?
Cela dépend du producteur. Par exemple, moi comme producteur, c'est environ 60% que je vends au marché. 40% c'est pour la consommation locale.
Donc, ce mouvement de contestation à l'automne dernier, quel effet ça a eu sur votre manière de fonctionner?
Avec le problème des pays locs, on n'avait pas la possibilité de transporter les produits au niveau de la capitale. Pour la banane, une fois récoltée, après une semaine, ça commence à détériorer.
Et qu'est-ce que vous avez fait alors?
On donne aux producteurs et aux d'autres marchands, ça a un prix très bas. C'est justement pour ne pas perdre toute la production.
Et vous pensez que finalement, avec le recul, c'était la bonne stratégie, le pays loc?
Bon, pour moi, bloquer le pays, ce n'est pas une chose très bonne. Parce que là, il y a des gens qui souffrent, des malades, et les agriculteurs. Mais si c'est cette manière pour résoudre les problèmes du pays, moi, je suis d'accord. et je vais participer aussi.
Cap Haïtien, deuxième ville d'Haïti et dernière étape de notre voyage. Dans un hôtel cossu en bord de mer, nous rencontrons le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Nord. Selon Marc Georges, et contrairement à d'autres villes du pays, Cap Haïtien a été moins touché par la pénurie des produits de première nécessité durant le mouvement de contestation.
Dans le Nord et le Nord-Est, nous avons des possibilités de faire des affaires avec la République dominicaine et avec le port que nous avons. Nous pouvons importer directement de Miami ou d'autres pays. Cependant, pendant très longtemps, nous n'avons pu avoir de carburant au Cap-Haïtien parce que les réserves de carburant sont tout à Port-au-Prince. Le pays a été fermé à partir du mois de septembre. On a rouvert peut-être à partir de décembre. Tout ce temps-là, il n'y avait pas de carburant.
Sauf pour quelques rares privilégiés.
Moi, par exemple, puisque je suis agent maritime, je pouvais demander à un bateau qui vient m'apporter des marchandises de mettre un extra, 1000 gallons, 500 gallons additionnels de diesel dans leur soute. Mais c'était pour l'usage personnel de quelques-uns, de personnes qui pouvaient se permettre d'acheter de la gasoline à un prix fort. Mais le grand public, pendant peut-être 2 ou même 3 mois, pendant toute la durée du pays loc, n'arrive pas à trouver du carburant.
Bienvenue à la deuxième saison de Jeudi Mental. Pour ceux qui arrivent pour la première fois, Jeudi Mental, c'est une séance thérapeutique.
La petite bibliothèque Athénor Firmin au centre-ville est bondée. Des femmes et des hommes de tous âges sont venus participer à une nouvelle activité hebdomadaire.
Chaque jeudi.
Je suis Rachel Saint-Julien, je suis journaliste et puis initiatrice de Jeudi Mental. Je ne suis pas psychologue, mais je suis entourée de psychologues dans le projet. À l'occasion du Pays Loc, on a initié Jeudi Mental pour aider les gens qui traversaient des difficultés énormes d'ordre mental.
Et pourquoi en fait ces difficultés éclataient au moment du Pays Loc?
C'est à cause de la situation chaotique du pays. Il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas de transport. On était forcés de rester chez soi et puis c'était comme si c'était une sorte d'enfer. À ce moment-là, donc, les gens qui pensaient beaucoup, qui avaient peur, ont développé des maladies psychologiques, comme la dépression, par exemple.
Donc, situation économique, situation sociale, on voit ça comme garantie aujourd'hui.
Même avec le pays loc où on ne pouvait pas déplacer facilement, on a reçu plus de cas que dans la période avant.
Guesley Michel, psychologue.
Donc, c'est pour dire que cette situation de crise a vraiment touché et a fait déborder le mental de la vie.
Le premier jour, c'était 4 personnes qui étaient là. Et puis les jeudis suivants, il y avait 4 autres, et puis 5 autres, et puis 10 autres. Il y avait un jeudi, la salle était bondée de monde.
Après 2h30 d'échange, on constate un réel besoin d'accompagnement psychologique chez les participants à Jeudi Mental.
Bien, et j'ai passé ces 3 mois dans ma chambre, coincé, privé de mes activités. Je ne pouvais pas aller voir mes amis. Ça m'était dans un état de choc.
Je me sentais très mal. Durant cette période, je n'avais pas d'espoir. Je me vois dans un pays qui est bouleversé. Le futur est incertain dans ce pays. Je me sentais très, 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 très perdu.
Des conférences comme celle qu'on vient d'entendre, ça aide à réfléchir?
Oui, beaucoup. Ça aide à réfléchir. Ça aide. Ça remonte aussi le moral.
Haïti, après l'opération Pays Loc, voyage à travers des provinces en crise. Un grand reportage de Stéphanie Schuller, Bertrand Eclair et Marc Kintoff-Casimir. Réalisation Pierre Chaffonge.
Je vois des jeunes qui ont des rêves. Je vois des jeunes qui ont du cran. Ensemble, nous luttons chaque jour pour essayer de prôner le changement. Déjà, si on ne commençait pas à avoir de l'eau, avoir des hôpitaux bien équipés, avoir l'électricité, vivre comme des gens normaux. Parce que là, nous sommes dans des conditions infrahumaines. Donc, commencer par vivre comme des êtres humains, c'est déjà quelque chose.